Bonsoir à tous, bienvenue à cette réunion publique de lutte ouvrière que nous organisons dans le cadre de la campagne électorale pour les régionales. Nous présentons des listes lutte ouvrière faire entendre le camp des travailleurs dans toutes les régions de la France continentale. Je vais maintenant présenter la tribune. Je me présente, Françoise Millot, enseignante retraitée, tête de la liste lutte ouvrière pour le département du Pas-de-Calais. Notre camarade Éric Péqueur, ouvrier dans l'automobile, qui est non seulement tête de liste du département du Nord, mais aussi tête de liste de la grande région Nord-Pas-de-Calais de Picardie. Et enfin, notre porte-parole, Nathalie Artaud. Avant de commencer cette réunion, je vous demanderai d'éteindre vos portables ou de les mettre en mode silencieux. Et maintenant, je passe la parole à Éric Péqueur.
Chers camarades, chers amis, en programmant les élections régionales en pleine COP21, cette grand-messe écologiste qui réunit à Paris la quasi-totalité des chefs d'État de la planète, nul doute que Hollande voulait utiliser la stature internationale que lui donne cet événement pour limiter la déroute électorale annoncée pour le PS lors de ces élections. Les ignobles massacres du 13 novembre à Paris n'étaient, eux, pas programmés. Mais en utilisant sans vergogne l'émotion suscitée dans le pays pour en appeler à l'Union nationale et pour endosser une nouvelle fois sa posture de chef de guerre, Hollande espère ramener vers les urnes une fraction de l'électorat du PS qui s'apprêtait à les bouder. Mais toutes ces gesticulations guerrières, toutes ces postures sur l'avenir climatique de la planète ne suffiront pas. Tout l'indique, le Parti socialiste et ses alliés vont recevoir une nouvelle gifle dans les urnes dimanche. Eh bien, cette déroute, le PS ne l'aura pas volé, tant il a renié les rares promesses qu'il avait faites, tant il a trahi tous les espoirs que les classes populaires avaient pu mettre en lui. Au gouvernement, il mène une véritable guerre sociale contre les travailleurs, contre les milieux populaires, au nom des intérêts de la classe capitaliste, de la bourgeoisie. Et c'est de cette guerre qui se mène ici tous les jours contre le monde du travail dont je voudrais maintenant vous parler. Chiffres records du chômage, pauvreté en hausse, l'offensive menée en ce moment par le patronat et le gouvernement contre le monde du travail est sans précédent depuis près de 50 ans. Jamais nous n'avions vu se déchaîner et s'étaler au grand jour une telle arme contre les travailleurs, les retraités, les chômeurs, les handicapés, toutes les petites gens, tous traités tour à tour de privilégiés, voire de profiteurs. Et qui les met ainsi au pilori ? Les porte-paroles du patronat, des patrons gavés de profits et de cadeaux, qui ne savent même plus quoi faire de leurs milliards, avec à leur service une clique de politiciens de tous bords et de journalistes serviles. Tous nous prêchent que refuser les sacrifices, refuser de voir baisser les salaires, réduire à presque rien les retraites, ou encore refuser d'être jeté à la rue du jour au lendemain, ou ne pas accepter de travailler gratuitement, ça serait faire preuve d'égoïsme. Car l'égoïsme, pour eux, c'est renâcler à l'enrichissement sans limite des capitalistes et des bourgeois. Voilà le credo qui les rassemble tous et qu'ils voudraient nous imposer de gré ou de force si nous ne nous laissions pas convaincre. La voilà, la vraie guerre qu'ils ont déclarée à la population laborieuse, que nos capitalistes sont en train de mener tous les jours ici et partout, sans relâche et sans trêve. Il n'y a pas une semaine sans que soit annoncée une nouvelle attaque, une nouvelle tentative de porter un coup contre les travailleurs. Côté patronat, ce sont les fermetures d'entreprises, les charrettes de licenciement, les coups portés aux salariés. Ce sont les référendums truqués d'avance organisés par les employeurs, où l'on demande aux travailleurs de voter pour la baisse des salaires, l'augmentation du temps de travail non payé, l'abandon de leurs droits au congé pour un hypothétique engagement à ne pas licencier tout de suite, avec comme résultat bien souvent et les sacrifices et les licenciements. Côté gouvernement, c'est la multitude de lois, projets de loi, textes, décrets, arrêtés, qui tous répondent à deux objectifs. Faire les poches des travailleurs pour financer les cadeaux au patronat et faire disparaître la législation existante pour démolir les quelques protections dont bénéficient encore les travailleurs contre l'exploitation. En matière de racket contre les petites gens, le gouvernement n'a aucune limite, sauf parfois le fait de se dire qu'à la veille des élections régionales, il devrait être plus discret. C'est ce qui s'est passé il y a peu quand la presse a révélé que le budget pour 2016 prévoyait d'aller voler dans les poches des handicapés une partie de leur misérable allocation. Et que dire de cette comédie hypocrite du gouvernement qui a fait semblant de s'apercevoir de l'explosion des impôts locaux pour les retraités les plus pauvres, alors que c'est une mesure décidée depuis 2008 qu'il aurait eu tout loisir de supprimer depuis longtemps. Le gouvernement se conduit comme un vulgaire voyou qui fait les poches aux plus pauvres par tous les moyens possibles. Et quand Hollande et les siens parlent de baisse des impôts pour ceux qui gagnent le moins, ils ne parlent que de l'impôt sur le revenu qui n'est qu'une faible partie de la totalité des impôts auxquels sont soumis les classes populaires. Sans même parler des impôts locaux à la hausse, ce sont les taxes TVA, taxes sur les produits pétroliers, payées sans distinction de revenus, et donc d'abord par la grande masse de la population qui représente l'essentiel des impôts. Et ces impôts-là ne cessent d'augmenter. Mais tout cet argent volé aux classes pauvres, à quoi sert-il ? À maintenir et à développer les services vitaux pour la population ? Pas du tout. Ceux-ci sont systématiquement réduits, voire détruits. Non, cela sert uniquement à financer de gigantesques cadeaux aux plus riches. Dans ce domaine, l'imagination gouvernementale est sans limite. Crédit impôt recherche, pacte de responsable de solidarité, CICE, aide financière directe, subvention fiscale, dégrèvements sociaux, ce sont des dizaines de milliards d'euros qui s'ajoutent à ceux déjà existants qui sont directement versés dans les caisses des grandes entreprises. Alors que les responsables du gouvernement nous rabâchent en continu que les caisses de l'État sont vides, les vrais assistés, les actionnaires des grandes entreprises, sous perfusion permanente, se goinfrent littéralement d'argent public. Tout cela, évidemment, au nom de la reprise économique et de la lutte pour l'emploi et contre le chômage. Mais plus ils distribuent d'argent aux capitalistes, plus le chômage augmente. Ces aides au patronat ont atteint des sommets et avec elles le déficit de l'État. Le chômage, quant à lui, a crevé tous les plafonds, atteignant déjà des records jamais connus. Plus de 5 millions de chômeurs officiels. Avec l'allongement continu de la durée moyenne de la période où l'on reste au chômage d'ailleurs. Aujourd'hui, la grande majorité des travailleurs qui arrivent à la retraite sont au chômage, parfois depuis bien des années, et le gouvernement veut repousser encore l'âge de la retraite. Alors, dire que c'est l'argent qu'on distribue sous toutes ses formes aux employeurs qui profitera aux salariés et les protégera est un mensonge grossier. Tout comme rabâcher que les profits des entreprises sont les emplois de demain. Toutes les grandes entreprises du pays, installées dans la région, ont fait la démonstration du contraire. Les leaders mondiaux dans leur spécialité, ArcelorMittal dans l'acier, Saint-Gobain dans le verre, Sanofi dans la pharmacie, engrangent tous des milliards de profits et continuent sans cesse de supprimer des emplois, de fermer des secteurs entiers, et intensifie le rythme de travail pour ceux qui restent. Et c'est pareil pour Peugeot, pour Renault, pour Toyota, dans la vente à distance. Et les fortunes continuent d'augmenter pour la famille Durand, patron de la cristallerie d'Arc, pour Bonduelle, ou pour la famille Mullier à la tête du groupe Auchan. Et plus les capitalistes font des bonnes affaires, plus ils amassent des fortunes, plus ça va mal pour les salariés. C'est Pinault qui s'est retiré fortune faite, sur le dos des employés de la Redoute. Et les deux des géants du pneumatique, qui étaient parmi les premiers employeurs en Picardie, ont montré comment ces sociétés pouvaient se conduire. En Picardie, Goodyear, groupe milliardaire, a fini par fermer son usine d'Amiens en jetant à la rue près de 2000 salariés, en provoquant une catastrophe économique pour tout le secteur. Goodyear a suivi le chemin du groupe Continental qui avait fermé son usine de Clairvaux en 2009. Continental a pu, au travers tous les licenciements imposés en France comme en Allemagne, faire remonter le cours de l'action en le multipliant par plus de 20 et permis ainsi à sa principale actionnaire, la famille Schaeffler, d'engranger des dizaines de milliards et de devenir la première fortune d'Allemagne. Et croyez-vous que ça aille mieux pour les salariés de Continental ? Eh bien, absolument pas. Aujourd'hui encore, des centaines d'emplois sont menacés en Allemagne et les salaires et les droits des salariés de l'usine de Sarreguemines sont sur la sellette, sans parler des reclassements d'anciens de Clairvaux que Continental n'a pas assuré. Oui, il est vraiment temps que le monde du travail fasse entendre son dégoût et sa colère face à la situation qui lui est faite. Pour contrer les maîtres de l'économie, de l'industrie, du commerce et des services, mais aussi le gouvernement à leurs bottes. Car si le patronat se montre intraitable, le gouvernement a accompagné, et comment, le mouvement en organisant la plus formidable offensive contre les droits des travailleurs qu'on ait connus depuis des décennies. Après la loi sur la compétitivité, après la loi Macron et ses 308 articles, après la loi Rebsamen sur le dialogue social, voici maintenant ce que le MEDEF appelle le grand chantier, celui qu'il attend avec le plus d'impatience, le dynamitage du Code du travail. Plus exactement, le projet concocté de concert avec le gouvernement consiste à transformer le Code du travail en maximum de ce dont pourraient bénéficier les travailleurs, les patrons ayant la possibilité d'imposer des accords inférieurs. Tout et n'importe quoi pourrait alors devenir la règle dans chaque entreprise. Et le Code du travail, qui n'était déjà plus guère appliqué dans de nombreuses entreprises, va être réécrit entièrement en faveur des patrons. Oui, plus le rapport de force est en faveur du patronat, plus celui-ci impose, loi ou pas loi, ses propres règles. Par exemple, depuis des années, le patronat est dans l'illégalité permanente en utilisant de plus en plus des intérimaires ou de CDD. À tel point, par exemple, qu'à l'usine de Renault-Flin, les intérimaires sont plus nombreux que les CDI sur les chaînes de montage. 1756 intérimaires pour 1400 CDI. En utilisant l'intérim, le patronat cherche bien sûr à gagner plus d'argent, mais aussi à tenter de diviser les travailleurs entre intérimaires et embauchés, en exerçant un chantage à l'emploi sur les intérimaires pour espérer avoir des salariés soumis. Eh bien, à force, ça se retourne contre les patrons. À Renault-Flin, il y a quelques semaines, ce sont quelques centaines d'intérimaires excédés qui ont entraîné une partie des ouvriers en CDI et qui, ensemble, ont paralysé l'usine pendant quelques heures. Et dans bien d'autres entreprises, spontanément, les travailleurs comprennent la nécessité de se rassembler dans l'action sans se préoccuper du statut de chacun d'entre eux. C'est bien là le chemin qui mettra en échec les plans de division des patrons. Ce que voudraient les patrons, ce serait de revenir 150 ans en arrière, quand il n'y avait pas de droit collectif du travail. Le contrat de travail deviendrait un simple contrat passé de gré à gré entre chaque salarié et le patron qui pourrait imposer ce qu'il veut sans autre contrainte légale. La seule liberté restant aux salariés serait de refuser le poste et rester au chômage. C'est bien pour répondre aux attentes de Gattaz et du MEDEF que la ministre du Travail a tenu dernièrement à évoquer la possibilité d'autoriser en matière de temps de travail des dérogations qui permettraient aux entreprises de faire travailler jusqu'à 60 heures par semaine, sans autorisation préalable. Dans sa volonté de plaire au patron, le gouvernement socialiste vient à remettre en cause non seulement les lois européennes qui limitent à 48 heures par semaine la durée maximale du travail pour tous les salariés européens, mais aussi la loi de 1919 sur la journée de 8 heures et les lois de la fin du 19e siècle. Et c'est ça que ces gens-là nous présentent comme le progrès et la modernité. À ce train-là, ils vont bientôt nous réinventer l'esclavage. Pour les patrons, travailleurs en CDI, en CDD intérimaires, vacataires, précaires en tout genre, nous sommes tous de la chair à exploiter. Eh bien, puisque eux nous unissent dans la même exploitation, sachons, nous, nous unir dans le même combat. Car nous, les travailleurs, nous avons la force de bouleverser les plans des patrons et de leurs serviteurs politiques. Les reculs qu'ils nous imposent viennent de ce qu'ils mènent la guerre de classe à sens unique, sans réaction collective de notre camp. Ils finissent par se croire tout permis, mais ce sont eux qui préparent les conditions de la contre-offensive du monde du travail en montrant leur vrai visage, leur avidité sans limite, leur arrogance, le mépris qu'ils ont pour tous leurs salariés, quelle que soit leur place ou leur statut. Ce sont les capitalistes eux-mêmes qui démontreront qu'il n'y a pas d'autre issue qu'une lutte large, profonde et unitaire de tous les travailleurs. N'ayons pas crainte, sur ce terrain, nous pouvons leur faire confiance, car ils ne s'arrêteront jamais de leur plein gré. Et quand le monde du travail se mettra en mouvement, non seulement il pourra mettre fin à tous les reculs subis, arracher ses revendications, mais en prenant conscience de sa force immense, il pourra contester la dictature des capitalistes sur l'économie et toute la société et apparaître comme la seule alternative à ce monde de fous, d'exploitation, de misère et de guerre. Et la propagande continue des hommes politiques et des médias prouve que c'est justement cette force-là qui sommeille encore, que tous craignent. Les réactions violentes du patronat, des hommes et des femmes politiques, des journalistes qui ont suivi les manifestations des salariés d'Air France, en a été une petite démonstration. Tous s'y ont mis. Journalistes de télévision, radio, presse écrite ont vomi leur haine et déversé des torrents de boue sur les travailleurs d'Air France. Insupportable pour eux que les travailleurs sortent du seul rôle que ces gens-là leur reconnaissent, celui du mouton qu'on mène tranquillement à l'abattoir et sur qui on peut s'apitoyer. Le gouvernement, lui, a immédiatement fait donner la police et mobiliser la justice contre les manifestants. Quant aux politiciens de la bourgeoisie, ils se sont tous lâchés. Du Parti socialiste, en passant par la droite et jusqu'au Front national, tous ont condamné les travailleurs qui osaient s'opposer au licenciement et ont pris la défense de la direction d'Air France. Ils ont traité les travailleurs de tous les noms, de voyous, d'agresseurs, de hooligans ou de chienlits. Eh bien, nous, les travailleurs, nous n'avons aucune raison de voter pour ces partis qui insultent de la sorte des salariés qui défendent leur emploi, des partis qui nous tapent dessus au gouvernement, qui nous ont tapé dessus quand ils y étaient et qui nous taperont dessus quand ils y seront. Le chômage est une véritable gangrène qui ronge le monde du travail. Depuis 40 ans, la droite, la gauche, la droite et la gauche ensemble, ou la gauche et la droite associées, ont expliqué que pour lutter contre le chômage, il fallait aider le patronat et les capitalistes par tous les moyens. Aujourd'hui, c'est plus de 200 milliards de cadeaux capitalistes qui quittent les caisses de l'État pour les coffres-forts de la bourgeoisie, pour augmenter encore plus les fortunes des grandes familles bourgeoises, des capitalistes et des banquiers. Et aujourd'hui, il y a 6 millions de chômeurs. Dans la région, les politiciens locaux font la même chose et distribuent des millions d'euros au patronat local. Pierre de Saint-Ignon, pour le Parti Socialiste, qui dit à propos des cadeaux aux entreprises, mais qu'on foute la paix aux entreprises, ça ne rime à rien de demander des contreparties. Xavier Bertrand est évidemment d'accord avec ce principe, et s'il affirme que, lui président, il créera 60 000 emplois, mais comment le croire, lui qui a été ministre du Travail de Sarkozy et qui a pour bilan un chômage en hausse. Marine Le Pen affirme, elle, que sa priorité, c'est d'être aux côtés des entrepreneurs régionaux, comme les deux autres, et d'annoncer, elle aussi, que la fusion des deux régions Nord-Pas-de-Calais et Picardie permettra d'économiser des emplois en ne renouvelant pas les départs à la retraite. C'est la même politique que l'UMP et le PS qu'elle feint de dénoncer. Non, contre l'hémorragie des licenciements, il faut poser un garrot pour stopper cette hémorragie. Et ce garrot, c'est l'interdiction des licenciements. Alors que fin 2012, le PS avait tous les pouvoirs, sa politique anti-ouvrière lui a fait perdre systématiquement toutes les élections. Mais le système électoral dans ce pays est fait de telle sorte qu'il sera remplacé à la tête des régions par une des autres écuries politiciennes qui se disputent le pouvoir. Jusqu'à ces dernières années, il y avait l'alternance entre deux partis, l'UMP, devenu les Républicains, et le Parti Socialiste, flanqué des écolos, des radicaux et du Front de Gauche. Avec l'usure rapide des partis au pouvoir du fait de la crise, avec la montée progressive du Front National qui se pose depuis des années en partie anti-système, qui s'appuie sur les illusions électorales semées par la gauche gouvernementale, illusions qui font dire à des électeurs déboussolés et écœurés, ceux-là, on ne les a jamais essayés. Eh bien, le bipartisme a laissé la place au tripartisme. Au lieu des deux écuries politiciennes candidates à gérer les affaires de la bourgeoisie, il y en a désormais trois. Alors que le FN soit en situation de diriger la région Nord-Pas-de-Calais et Picardie, et peut-être deux autres grandes régions du pays, est certes grave. C'est le signe du progrès des idées réactionnaires dans le pays. Oui, l'arrivée du FN au pouvoir, ne serait-ce qu'à l'échelle des régions, renforcera des groupes ou les groupes ou les individus les plus racistes, les plus anti-ouvriers, hostiles aux militants syndicaux et aux militants communistes. Mais ces idées réactionnaires ne sont plus l'apanage du FN. De Nadine Morano et sa sortie sur la France, pays de race blanche, à Xavier Bertrand, candidat de la droite dans la région qui veut ouvrir des camps d'internement antiterroristes pour toutes les personnes fichées, il n'y a aucune frontière entre la droite et l'extrême droite. Et sur le terrain économique, le FN à la tête des régions, comme à la tête du pays, mènera fondamentalement la même politique pro-patronale que les deux autres larrons, en plus musclée contre les travailleurs, contre les chômeurs. Depuis la passation de pouvoir entre le père et la fille, pour élargir son électorat et pour gagner les élections, le FN s'était mis à draguer les ouvriers et les classes populaires. Sur son fond de commerce traditionnel, la haine des étrangers, le racisme anti-immigré ou anti-musulman, Marine Le Pen avait adapté son discours et développé quelques couplets sur les travailleurs pauvres, français bien sûr, qui travaillent dur et sont mal payés. Le Front National a parlé du retour de la retraite à 60 ans ou d'augmentation de salaire. Mais cela n'aura pas duré bien longtemps. Plus le Front National se rapproche de la mangeoire, plus il revient à un discours de droite bien classique, car il cherche à rassurer les patrons. Au cours de cette campagne des régionales, le FN vient de changer une nouvelle fois son discours, en s'adressant prioritairement au cœur de son électorat, le patronat, et toute la frange réactionnaire de la petite bourgeoisie. Tout comme ses deux concurrents, il promet au patron de nouveaux chèques. Et si Gattaz, le patron du MEDEF, fait des reproches à Marine Le Pen, c'est pour qu'elle aille encore plus vite dans l'abandon de la démagogie sociale et montre patte blanche aux capitalistes, comme les autres, en bons serviteurs obéissants, et que le Front National cesse d'utiliser des discours démagogiques sur les retraites et les augmentations de salaire. Quant à la propagande anti-Le Pen menée ces derniers jours par la Voix du Nord, elle révèle sûrement l'inquiétude justifiée des journalistes régionaux. Mais elle montre aussi comment, derrière les patrons de la Voix du Nord, les grands capitalistes régionaux, les Bonduel, Mullier et compagnie, mènent la même politique que Gattaz au niveau national, qui veut que Marine Le Pen leur soit obéissante dans les moindres détails en faisant jouer la concurrence avec leurs serviteurs de la droite. Le FN a ainsi fait comme tous les partis politiques qui veulent les voix des couches populaires, des promesses qui n'engagent que ceux qui y croient. Et profitant du discrédit de la gauche et du désarroi d'un grand nombre de travailleurs, le FN a réussi à attirer un électorat ouvrier. Il n'empêche, la colonne vertébrale de son électorat est constituée de petits patrons réactionnaires qui n'apprécient guère la démagogie envers l'électorat populaire. Ils ne la tolèrent que parce qu'ils savent justement qu'il ne s'agit que de démagogie. alors que Gattaz, Bonduel, Moulier préfèrent Sarkozy, Fillon, Bertrand ou de Saint-Ignon à Le Pen pour le moment, cela importe peu. En réalité, ils sauront très bien se satisfaire et des uns et des autres qui leur offriront leur service une fois élus. Le FN, lui, est comme la droite et le Parti socialiste. Quelle que soit la démagogie utilisée, il se mettra au service du grand patronat et mènera la même politique anti-ouvrière que ses concurrents. Alors, dans la situation actuelle, le patronat a son programme et il a sa stratégie pour mener sa guerre au monde du travail. Il a mobilisé tous ses serviteurs politiques pour parler en son nom et faire le sale travail. Eh bien, le monde du travail doit avoir son plan à lui pour préserver ses intérêts. Il doit avoir son propre programme pour protéger ses conditions de vie et pour garantir son avenir, en sachant qu'il ne devra compter que sur ses seules forces, qui sont immenses, sur ses mobilisations et sur ses luttes. Alors, au patronat qui licencie à tour de bras, les travailleurs doivent opposer l'interdiction des licenciements et la répartition du travail entre tous sans diminution de salaire. Face à la faiblesse des ressources des salariés et retraités, il faut une augmentation massive des salaires et des pensions garantie par une indexation automatique face à l'augmentation des prix, des taxes et des impôts. Pour mettre à jour les profits indécents des capitalistes et de la classe bourgeoise, pour que chacun sache les plans secrets de restructuration et de licenciement qu'il mijote, il faut mettre à jour et contrôler les comptes réels de toutes les grandes entreprises, des banques, des grandes familles bourgeoises. Il faut mettre fin au secret commercial, au secret des affaires, pour se préparer à contester la direction de l'économie à cette classe sociale parasite. Ce programme ne sera jamais le fruit d'une loi prise par un gouvernement de la bourgeoisie. Il ne verra le jour que s'il est imposé par en bas, par la force, par les mobilisations de la classe ouvrière. Nous avons tous autour de nous des camarades de travail qui peuvent être démoralisés, des militants ouvriers peu à peu découragés et du coup qui peuvent perdre confiance dans la capacité des travailleurs à se mobiliser, à se défendre et à se battre. Eh bien, il ne faut pas céder au découragement, car la situation peut changer et changera très vite, extrêmement vite. À un moment ou à un autre, le gouvernement prendra la mesure de trop. Le patronat aura la provocation qu'il ne fallait pas. Et on assistera enfin à des explosions de colère salutaires. Le problème actuel des travailleurs n'est pas de savoir si ces explosions de colère vont avoir lieu, car elles vont avoir lieu. Le problème, ce sera de faire en sorte que ces mobilisations soient victorieuses. Le problème, ce sera que chaque mobilisation en appelle d'autres. Ce sera de ne pas se laisser emmener sur une voie de garage, de ne pas se faire vendre une fois de plus par des dirigeants syndicaux qui signeraient des accords dans notre dos, comme en 68, et mettraient tout leur poids dans la balance pour nous faire retourner au travail, comme en 1936. Lorsqu'éclateront des luttes que nous appelons nos voeux, il n'est pas question qu'une fois encore les travailleurs se fassent savoir, qu'ils se retrouvent une fois encore à se battre pour n'arracher finalement que des mesurettes sur lesquelles le patronat pourra revenir quand il voudra. Quand les travailleurs auront retrouvé leur force et leur combativité, il faudra qu'ils se battent pour imposer des mesures qui non seulement feront reculer réellement la bourgeoisie, mais changeront durablement le rapport de force en imposant leur contrôle à tous les niveaux. Il faudra qu'ils se méfient comme de la peste des charlatans, des faux amis, quelle que soit leur étiquette ou leur position, capables de la dernière démagogie, mais qui ne sont là en dernière analyse que pour protéger le pouvoir de la bourgeoisie. Pour éviter cela, il est nécessaire qu'au sein de la classe ouvrière, il y ait des femmes et des hommes conscients des enjeux et qui s'y préparent, eux et leur classe sociale. Il faudra qu'il existe un parti ouvrier de combat, un vrai parti communiste, dont le seul objectif soit la défense jusqu'au bout des intérêts matériels et politiques des travailleurs. Ce parti, il se forgera dans les luttes, mais il doit aussi faire entendre sa voix dans toutes les échéances électorales. Car il faut donner aux travailleurs la possibilité de voter pour les leurs, et en aucun cas pour ceux qui les attaquent et les oppriment. Les travailleurs conscients ne peuvent baiser la main de ceux qui les matraquent. Et il est vital qu'à travers ces élections, brille le phare qui indique la voie pour sortir de la tempête. Il ne faut ni se soumettre, ni se taire, et donc pas s'abstenir. Il faut apporter tout son soutien pour donner vie à cette seule perspective qui nous permettra de mettre fin au chaos actuel. Et si le bulletin de vote n'a pas le pouvoir de changer la vie, il permet au moins d'affirmer clairement son appartenance à un camp, au camp des travailleurs. Alors, camarades, il faut que l'on soit le plus nombreux possible à se saisir de ce vote avec le bulletin Lutte ouvrière pour exprimer notre confiance dans notre classe sociale, la classe ouvrière, pour dire que l'avenir appartient à nos luttes, à la conscience de nos tâches. Oui, l'avenir appartient à la classe ouvrière. Dimanche, votez Lutte ouvrière.